おかしい、おかしい。
Je vous invite à suivre à présent le magazine Dialogue en temps congolais à la présentation Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonsoir et bienvenue dans ce Dialogue en temps congolais consacré à la cohabitation entre militaires au Nord Kivu. Comment créer la cohésion au sein de la hiérarchie militaire dans cette province du Nord Kivu? Les représentants des unités mixtes, brassées et non brassées y ont réfléchi la semaine dernière. Cela dans une retraite dite formative à Goma. Quelles sont les conclusions de leur réflexion? Une telle rencontre peut-elle inciter les Mai Mai, des troupes non intégrées, ainsi que les éléments fidèles à Laurent Kunda, mixés et non mixés, à rejoindre le brassage? Nous tenterons d'y répondre dans cette émission. Nous recevons justement pour en parler le colonel Delphin Kaimbi. Il est commandant second de la 8e région militaire, c'est-à-dire le Nord Kivu. Il a pris part à cette réflexion. Autre invité, Michel Noureddine Kassa, ancien coordonnateur de Hochaï, aujourd'hui, c'est lui qui a organisé, il est responsable de l'ONG Initiative pour un leadership cohésif en RDC, et le professeur et sénateur Joly Jacques, il est vice-président de la commission défense et sécurité au Sénat, il est aussi membre de l'Union pour la Nation. À vous tous, chers invités, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Certains auditeurs du Nord qui vous félicitent cette initiative, Jean de Dieu de Goma et Fiston Féli, Mistona de Walikale, se réservent, eux, quant au résultat final, car selon le premier, ces militaires s'illustrent par des clivages tribaux, et pour Mistona, les militaires congolais ne respectent pas leur signature. Pour Boussoukou de Kikwit au Bandundu, la cohésion au sein de la hiérarchie militaire du Nord Kivu passe par la lutte contre l'impunité observée en RDC dans ce coin du pays. Avant de poursuivre, le rappel de notre contact.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Ils sont une cinquantaine d'officiers, des brigades et des bataillons intégrés, non intégrés, et mixés de la 8e région militaire. Ils ont achevé jeudi dernier à l'hôtel Caribou de Goma une rencontre appelée la retraite formative. Elle a été initiée par l'organisation internationale dénommée Initiative pour un leadership cohésif en RDC. Objectif, discuter et trouver des solutions aux problèmes et tensions qui divisent les mêmes troupes FRDC au Nord Kivu. En effet, 5 brigades ont été mixées au premier semestre de cette année dans cette province. Et c'est au moins 10 000 hommes, dont la moitié provient des troupes de l'ex-général Laurent Kunda. L'opération est transitoire. Elle devrait aboutir normalement par le brassage. Pour l'heure, ces troupes en sont toujours au stade du mixage. Ce mixage, qualifié de négatif par plusieurs observateurs, qui accusent l'opération d'être à la base de l'augmentation de l'insécurité au Nord Kivu. Par ailleurs, ces 5 brigades mixtées évoluent à côté d'autres brigades déjà brassées et d'autres non brassées. Ainsi donc, la retraite a permis aux 50 commandants et officiers supérieurs des brigades et bataillons du Nord Kivu de passer pour la première fois 5 journées ensemble. Georges Kamoujova a suivi pour nous cette retraite à Goma.
Il faut qu'on arrive à établir le contact. En établissant le contact, vous allez dégager un certain nombre de points, notamment la méfiance.
Le commandant de la 8e région militaire, 20h Mayala, le reconnaît. Méfiance et division sont les deux mots identifiés dans la hiérarchie militaire au Nord Kivu. Nous ne sommes qu'au premier jour, beaucoup d'officiers ne se connaissent pas. D'ailleurs, chacun garde son pistolet sur lui. À la pause, chacun choisit son coin. Leurs gardes du corps dehors se regroupent aussi par affinité. Certains officiers ne passent même pas nuit dans les hôtels prévus, évitant tout contact. Chaque officier porte néanmoins un macaron blanc sur lequel est écrit son nom. C'est à peine s'il se parle au deuxième jour. Les organisateurs prévoient des exemples des problèmes que peuvent rencontrer les officiers dans une région militaire. Ces exercices doivent permettre aux participants de se parler. Les officiers identifient aussi ce qui les divise. Pas de tabou, on discute des ethnies, de l'économie, de la politique, des relations avec les voisins de la RDC, de mixage et de brassage, des discussions houleuses et qui font parfois craindre le pire.
Le colonel me dit que si, à la niabrette, à la télé,
Après des jours, on n'arrive pas à la méfiance zéro dans cette formation, mais les contacts se renforcent. Pour clore cette rencontre, les résolutions sont des bonnes intentions. Une, les hommes en armes doivent éviter de faire la politique et se refusent de suivre le langage des politiciens séparatistes. Deux, ne pas écouter les rumeurs. Trois, ne pas agir pour l'intérêt d'une ethnie, mais pour celui de la RDC. Quatre, convaincre les autres à rejoindre le brassage. À part ces quelques résolutions d'ensemble, chacun prend un engagement personnel. Parole d'officier.
Je m'engage à sécuriser la population ainsi que les biens sans discrimination aucune.
Je m'engage à aider le commandement de l'armée à bien remplir sa mission.
L'engagement est pour les deux et la sécurité, pour un autre et un autre.
Je suis d'accord, allez au bras.
L'atmosphère se détend dans la salle et l'on apprécie les engagements. Chacun en sort avec les numéros de téléphone des autres participants, mais même au terme de leur formation, les officiers reçoivent des coups de fil leur disant que sur terrain, certains de leurs hommes se tirent déçus. Par ailleurs, certains officiers, pourtant influents dans la région, n'ont pas été présents à cette rencontre. C'est le cas de deux commandants, proches de Laurent Kunda, colonel Makenga à la tête de la brigade Alpha, et colonel Kabundi, commandant second de la brigade Echo, récemment mixée. De Goma, Georges Kamoudova pour Dialogue entre Congolais.
Voilà. Michel Noureddine Kassa, c'est votre ONG, Initiative pour un leadership cohésif en RDC. C'est donc votre ONG qui a initié cette rencontre. Pourquoi une telle rencontre que vous avez nommée retraite formative à l'intention des officiers militaires du Nord Kivu?
Je crois que votre collègue de Goma a très bien décrit l'atmosphère. Je suis convaincu que la confiance, c'est l'une des plus belles constructions humaines, la confiance entre hommes et femmes. Quand en plus ces hommes sont armés, la confiance est une nécessité impérative.
Beaucoup de tensions quand même au début.
Beaucoup de tensions, mais déjà un grand pas est franchi quand les gens sont là et se retrouvent à 50 autour des animateurs. Au passage, je voudrais dire que l'initiative pour un leadership cohésif au Congo et se voit surtout comme une sorte de facilitateur de sage-femme dans la maternité. Tout se fait entre Congolais. Il s'agit pour des personnes qui ont une influence déterminante sur le cours des choses dans cette partie de la République, de se parler, de s'écouter.
Et vous pensez avoir atteint votre objectif?
C'est une toute première étape. Déjà, il y a un motif de satisfaction dans le fait que les gens aient été présents pendant 5 jours, et au passage, présents à un moment où il y avait les plus folles rumeurs qui couraient, comme toujours quand, autour du 30 juin, il y avait des rumeurs, pour ne pas vous cacher, des rumeurs de FRDC contre Nkunda, de Nkunda contre Goma, de possibilité d'une colonne FDLR qui parte vers le Rwanda, tout ça, et toutes ces rumeurs folles couraient dans la ville, et j'imagine ici à Kinshasa aussi. Alors, pendant ce temps-là, tous les officiers qui comptent, ou une bonne partie d'entre eux, étaient dans la salle, en train de se redécouvrir ou de se découvrir.
Donc c'était en fait ça, si on peut le résumer, l'objectif de la retraite.
Permettre à des Congolais de se parler et de s'écouter, des Congolais influents de se parler et de s'écouter, en effet. Et c'était à l'invitation d'ailleurs du commandant de la 8e région. Nous étions très heureux de répondre à cette invitation.
Voilà. Colonel Delphin Kaimbi, vous êtes en ligne depuis Goma, vous êtes commandant second de cette 8e région militaire. Vous intervenez donc à double titre, d'abord comme autorité militaire de la province, puisque je l'ai dit, vous êtes commandant second de cette région militaire, mais vous avez aussi participé à cette retraite. Quelles sont les conclusions, selon vous, de cette retraite?
Merci beaucoup, monsieur. Je crois que avant de répondre à votre question, je dois tout d'abord exprimer mes impressions et surtout exprimer ma grande satisfaction par rapport à la réussite de cette retraite qui a été couronnée d'un succès à travers tout d'abord la présence de tous les commandants et la quasi-totalité des commandants qui étaient conviés, et aussi à la disponibilité parfaite de l'organisateur, même si la région militaire avait déjà pris l'initiative à la même date du 20 jusqu'au 7 à organiser un séminaire qui consistait et qui avait pour objectif de créer cet esprit de corps et de rapprocher les commandants qui étaient tous engagés pour un même objectif de défendre l'intégrité et de sécuriser totalement la population ainsi que leurs biens, mais aussi à chercher à créer un autre courant, c'est-à-dire faire parler tous les commandants en même langage et voir dans la même direction.
Alors, quelles sont les conclusions, colonel?
Les conclusions, tout d'abord, c'est que M. Michel a essayé de les résumer, et j'essaie un peu d'être toujours derrière lui. C'est que tout d'abord, il fallait bannir ce climat de confusion et de méfiance qui régnait. Ça a été tout d'abord un succès parce que tout d'abord, tous les commandants ont parlé le même langage, ont discuté tous sur le même sujet. Chacun a exprimé son point de vue. Il a défendu globalement. On a tiré des conclusions. Tout d'abord, c'était la première chose. Deuxième conclusion, c'est que ça a été suivi par des différentes recommandations. Et après, il y a eu des engagements comme suivi. Et ça a été tout à fait parfait. Et je suis tout à fait persuadé que dans les prochains jours, pendant que nous allons voir l'impact de ce que sera, de ce que cela va produire, nous avons visé tout d'abord l'impact. Et je crois que ça sera une réussite, étant donné que nous avons tous compris que au niveau de l'armée, il ne se posait aucun problème, mais aussi il fallait voir au niveau des tribus. Comme j'ai vu au développement de l'introduction, il y avait des clivages tribaux. Il fallait aller jusqu'au niveau des tribus et influencer toutes ces tribus à s'accepter mutuellement.
Donc, vous pensez que c'est fini aujourd'hui? Tous ces clivages sont finis, selon vous, colonel?
Non, les clivages ne sont pas encore finis parce que nous n'avons pas abordé toutes les questions et tous les responsables des tribus et des ethnies n'étaient pas présents. Sinon, du côté militaire, étant donné que ça a été tout d'abord une réussite de loger tous ces commandants qui étaient rivaux, qui étaient jadis ennemis, qui étaient dans un courant qui était totalement dispersé.
Donc vous avez réussi à les mettre ensemble et pour vous c'est une réussite.
Le mettre ensemble c'est une réussite et terminer le séminaire sans le moindre dégât. C'était vraiment une réussite.
Merci beaucoup, colonel. Oui, nous avons dans ce studio, nous avons aussi le sénateur Joly Jacques, qui est vice-président de la commission défense et sécurité au Sénat. Monsieur le sénateur, vous venez de suivre les déclarations, les propos des différents intervenants. Qu'est-ce que vous pensez des conclusions telles que données, notamment par Michel Kassai et le colonel Delphine Taïmi?
Merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt Michel Kassai et notre ami le colonel Delphin à partir de Goma. En fait, toute initiative en vue de créer la paix ou de consolider la paix ne peut être que félicitée, d'où qu'elle vienne. La paix n'a pas de prix. Mais j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que la mission de construction d'une armée, la mission de construction de ce que les colonels appelaient l'esprit de corps, la création d'une armée unique, c'est une mission de l'État, une mission de souveraineté. Un État qui est incapable d'avoir une armée, un État qui est capable d'avoir une armée unie, républicaine, nationale, une armée divisée en ethnies, en groupes, ceci parlant telle langue, ça me pose un réel problème et ça justifie la situation, n'est-ce pas, de déficit d'État, de la situation, n'est-ce pas, d'une zone pratiquement de conflictualité endémique, qui est, n'est-ce pas, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Est-ce que c'est pas là l'importance justement de cette retraite?
L'importance est là, c'est ça ma deuxième préoccupation. C'est une initiative locale qu'il faut féliciter. Mais moi, en tant que sénateur, en tant que Congolais, je vois d'abord au plan global. Ce sont des tentatives de la société civile, cette initiative. Donc, c'est une organisation non gouvernementale qui constata, donc, je ne veux pas dire l'incapacité, mais la faiblesse du commandement, la faiblesse de l'action politique centrale, et a compris toutes les difficultés de ces bandes, de ces groupes armés divisés en ethnies, en groupes rivaux, tente, n'est-ce pas, de créer ne fût-ce qu'un minimum de contact, de confiance. Donc, ce qui démontre que tous les processus techniques nationaux élaborés, que ce soit l'intégration, que ce soit le brassage, que ce soit le mixage, ont été un échec. C'est donc, il faut partir de cet échec-là pour dégager une approche globale, une approche étatique nationale pour arriver à une solution.
Mais vous avez suivi, le colonel a dit que au niveau de la région militaire, il y avait déjà cette initiative.
J'ai suivi le colonel avec beaucoup d'intérêt. Il dit ce qu'ils ont pu faire, ils ont pu causer, ils ont pu entretenir. Mais lorsque le commandement d'une région a des difficultés à entretenir un minimum de confiance avec les unités soi-disant qui dépendent de lui, ça me pose un problème de savoir si nous sommes dans une armée ou dans des bandes armées. Ça, c'est un problème. Et je comprends la difficulté du commandement local. Je connais la valeur intrinsèque du commandant 8e région et de tous ses officiers qui sont avec lui. Mais ce sont des gens qui sont en train de se débrouiller avec de moyens de bord. Je ne vais pas dire de bricolage. Mais où est la vocation, n'est-ce pas, de l'État lui-même d'assurer la renaissance, la création d'une armée nationale? Parce que c'est ça la condition première de la renaissance de cet État, c'est la condition première de toute action. Parce que sans la paix, sans la présence d'une armée nationale qui sécurise le Congolais à l'intérieur de leurs frontières et qui le sécurise vis-à-vis des autres, je ne vois pas quelle action politique, diplomatique, économique qu'on peut tirer dans ce contexte comme celui qu'on vient de nous décrire.
Merci, sénateur Jacques Njoli. Comment créer la cohésion au sein de la hiérarchie militaire en Nord-Kivu? Les représentants des unités mixées, brassées et non brassées y ont réfléchi la semaine dernière dans une retraite dite formative à Goma. Une telle rencontre des militaires peut-elle inciter les Maïmaï et les trop fidèles à Laurent Kunda, mixés et non mixés, à rejoindre le brassage? Nous en parlons dans la deuxième partie de cette émission. Je vous rappelle nos invités, le colonel Delphin Kaimbi, commandant second de la 8e région militaire, Michel Noureddine Kassa, organisateur et responsable de l'ONG Initiative pour un leadership cohésif en RDC, et le professeur et sénateur Njoli Jacques, vice-président de la commission défense et sécurité au Sénat, également membre de l'Union pour la Nation.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Comment créer la cohésion au sein de la hiérarchie militaire Nord-Kivu? Pendant la retraite de Goma, les différents officiers militaires ont identifié les problèmes qui sont à la base de la division au sein de l'armée dans cette province. La raison qui englobe tout est que cette région a connu toutes les guerres qui ont secoué les pays des Grands Lacs ces 15 dernières années. Ils ont aussi évoqué d'autres causes profondes. Denise Lukeso.
La première cause identifiée par les organisateurs, c'est d'abord le fait qu'une ethnie se sente menacée d'être éliminée par les autres. La deuxième cause est le sentiment selon lequel il y aurait un agenda visant la révision des frontières du Congo. Les deux causes sont à la base des suspicions entre officiers militaires mixés, brassés et non brassés. Les participants eux-mêmes ont identifié d'autres causes parmi lesquelles le manque d'une politique militaire au sein du gouvernement. Ils épinglent entre autres le manque de logistique, les discours séparatistes des leaders politiques et les versements irréguliers des salaires. L'autre cause, c'est aussi les retards pris dans le processus de brassage de l'armée, processus auquel n'ont pas encore adhéré les troupes récemment mixées et les Maïmaï.
La retraite des officiers clôturée le week-end dernier à Goma permettra-t-elle, par exemple, à ceux qui n'ont pas été brassés de rejoindre ce processus? Réaction de plusieurs groupes militaires influents du Nord Kivu. D'abord, celle de la brigade Baleine, composée des Maïmaï non brassés. Écoutez leur commandant, le colonel Jackson Mukamboto.
Nous, nous apprécions le brassage. Nous avons déjà envoyé plusieurs de nos hommes à cette opération. C'est aussi aux autres de faire un pas. Mais ces rencontres sont peut-être bénéfiques pour ça. On apprend l'unité, les avantages de la paix, l'intérêt particulier et l'intérêt général. Après, certaines personnes affichent de bonnes intentions parce qu'on a appris des choses au séminaire. Mais c'est avant tout un problème individuel. individuelles. Quelles que soient les bonnes intentions exprimées, personne ne sait ce que chacun pense au-dedans de lui par rapport à l'agenda de son mouvement. Si les gens assimilent ces notions, ils devraient se décider d'aller au brassage. Il faut continuer à sensibiliser les autres troupes sur les bienfaits du brassage. Leur dire que nous devons avoir une seule armée, une même idéologie, un même commandement.
Quant aux troupes fidèles à Laurent Kunda, il faut renforcer le message et arriver au brassage. Elles donnent des préalables, entre autres l'amélioration des conditions dans les centres de brassage, le respect de la durée de 45 jours, le retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda. C'est ce que dit le major Séraphin Mirindi au nom des troupes du Congrès national pour la défense du peuple CNDP, le groupe armé de Laurent Kunda. Il ajoute qu'il faut intégrer tout le monde, y compris Laurent Kunda. Le major Séraphin Mirindi.
Nous ne pouvons pas intégrer une partie et laisser une autre. Laurent Kunda, hier, a fait la guerre parce qu'il avait une cause qu'il défendait. Et il n'était pas seul, il était avec beaucoup de gens, des régions différentes. Et tout ce monde-là devra se retrouver dans cette nouvelle intégration militaire. Nous ne pouvons pas partir sur des bases exclusives. Donc pour nous, nous pensons que demain, nous allons encore une fois réitérer cet engagement-là, voir notre gouvernement des FARDC et la partie du CNDP faire une alliance et identifier ces autres militaires-là pour que, ensemble, lorsqu'il y aura une opération de brassage dans les jours à venir, parce que c'est encore discutable, nous devons vider de fond en comble cette opération, que tout le monde puisse s'intégrer.
Enfin, pour les troupes déjà intégrées, le brassage doit être considéré comme visant à l'intérêt général. Les retraites, comme celles du week-end passé, peuvent aider à obtenir l'adhésion des autres troupes à ce processus. Écoutons le colonel Philemon Yav, commandant de la brigade Charlie, basée à Massissi.
C'est peut-être en comprenant l'intérêt général que quelqu'un peut prendre sa décision d'aller au brassage. Je ne parle pas des individus ou des groupes d'individus, non. Ici, l'intérêt général, je vois le Congo. Si on se dit qu'on est Congolais et que l'intérêt général est d'aller au brassage, ou simplement le brassage est un passage obligatoire de tous les militaires, c'est ce que dit l'intérêt général. Moi, je crois qu'en tant que militaire, averti avec ce qu'on a vu, ça peut me permettre de voir où est l'intérêt général et d'aller dans le sens de l'intérêt général.
Est-ce que vous croyez que les différents soldats ont compris cet intérêt général?
Je le crois puisque tout le monde a participé au débat. En multipliant peut-être beaucoup de rencontres comme ça, je crois que cela va essayer de décanter la crise.
Alors, Michel Kassa, c'est vous qui avez quand même initié cette retraite. Vous êtes satisfait des résultats?
Comment peut-on être satisfait quand on sait que la plupart des civils en région rurale, dans le nord et le sud Kivu, ce soir probablement passent encore une soirée de peur? Ça, je ne peux pas oublier mes années d'humanitaire et le fait que on est bien conscient que tout cela se fait. Nous ne faisons pas ça pour le moment au Bandundu, parce que c'est au nord et au sud Kivu qu'il y a eu une sorte d'importation de l'enfer depuis 94. Et l'un des aspects positifs de cette rencontre de 5 jours, c'est que il y avait un éloignement par rapport à un autre groupe armé qui existe là-bas, et qui est le seul qui ne soit pas congolais, c'est-à-dire les FDLR, pour lesquels un traitement probablement de différentes manières, selon les différentes catégories, est toujours attendu, parce qu'il y a des FDLR qui ont 20 ans, qui avaient donc 7 ans en 94. Pour eux, des solutions politiques, j'espère, pourront être trouvées, et d'autres solutions devraient être trouvées, y compris des pays tiers. Pour une fois, une bonne partie des officiers qui sont, encore une fois, influents sur le terrain, quel que soit leur statut actuel, tous congolais, se sont retrouvés et ont pu se rendre compte qu'ils avaient notamment justement une adversité commune, qui était le fait qu'il y a un groupe armé qui a toujours un mobile vis-à-vis du régime du pays dont ils sont originaires, et dont les actes ne seront jamais concordants avec les intérêts des civils du nord et du sud Kivu, et plus généralement du Congo.
Oui, Michel Kassa, vous avez réussi à les mettre ensemble. Mais est-ce que vous pensez que votre initiative a réussi aussi à convaincre les réfractaires au brassage, c'est-à-dire les Maïmaï, les troupes fidèles à Laurent Kunda, mixés et non mixés, par exemple, à rejoindre les camps de brassage? Pensez-vous avoir réussi
Bien entendu, monsieur, vous savez que combien le processus est difficile et ardu. Il y a une chose, je vais mettre les pieds dans le plat parce que je crois que c'est à ça que peuvent être utiles ce genre d'initiatives et aussi, dans une certaine mesure, la société civile internationale telle que le sénateur Joly l'a décrite, c'est que les peurs les plus absolues de chaque camp ont été mises sur la table. D'un côté, les peurs de Tutsis, qui ont eu déjà des massacres dans les années 94 par les ex-FARC qui étaient dans les camps de réfugiés, qui sont les tués à Massissi et à Rutshuru, qui leur ont donné, semble-t-il, une conviction qu'ils ne pouvaient faire pour se protéger qu'une défense armée. Il faut les aider à sortir de cette logique-là. Et c'est à l'État de les rassurer, comme le sénateur le décrivait tout à l'heure plus largement. Pour l'autre partie, il y a eu une peur chez chaque Congolais, qu'une partie de la communauté nationale congolaise ait dans la tête de changer les frontières ou de changer les institutions par force de ce pays. C'est une conviction de la part de beaucoup qui les empêche d'avoir tout dialogue avec d'autres Congolais, en particulier de la communauté Tutsi, la plus convaincue qu'elle doit recourir à la défense armée.
Oui, mais ça, on a entendu au début de la retraite, mais après, maintenant, la retraite.
Justement, la retraite a fait un pas, à mon avis, assez important, parce que ces choses-là peuvent être entendues et échangées, de façon à ce que chacun sache, comment rassurer l'autre. Comment rassurer l'autre partie? Je crois que ce sont ces peurs qui doivent être traitées. Ce n'est pas propre au Congo. Il y a d'autres pays dans le monde où d'autres périodes dans le monde où des gens sont passés par là, par des peurs absolues qui les empêchent de dialoguer avec leurs compatriotes. Je crois qu'il y a une chose, le groupe de Congolais qui se sont rencontrés pendant 5 jours à Goma ont formidablement avancé, à mon avis, dans leur capacité d'écouter l'autre.
Oui. Mais colonel Delphin Kayembi, je rappelle que vous êtes commandant second de la 8e région militaire. Est-ce que cette initiative, cette retraite, finalement, vous vous êtes rencontré avec les autres officiers militaires, mais les troupes réfractaires au brassage, est-ce que vous avez réussi à les convaincre d'aller au brassage?
Bon, une question à double réponse. Premièrement, c'est tout d'abord qu'il y a eu, vous avez suivi Jackson qui appartient à la tendance Maïmaï et qui est le leader de la brigade de Palem qui a exprimé sa volonté. Je peux vous informer d'ailleurs qu'il y a cela plus d'un mois qu'il avait déjà regroupé ses hommes sur ordre et qu'il était prêt à aller vite au brassage.
Oui, mais on a...
Les justices
se posent. Oui, mais on attend, colonel, on a suivi qu'il demande à d'autres de faire un pas. D'autres, je pense, c'est peut-être les troupes mixées et non mixées.
Tout à fait. Et cela a été vraiment l'objet d'une discussion très animée. Nous avons démontré clairement aux autres qui étaient en face de passage sous prétexte de l'insécurité qui pesait contre leur population, leur affaire. Nous avons également épinglé la question des délais qui constituent les faux prétextes pour que les autres ne se rendent pas au passage. Et nous avions défini les mécanismes et chacune des parties avait émis une série de propositions et de mécanismes. Voilà donc, vous avez suivi Séraphin qui a essayé un peu de parler des retours des réfugiés,
oui.
Qui n'est pas un problème militaire, pourtant nous étions dans une retraite purement militaire, je ne pouvais pas traiter des questions civiles ou des questions des autres organes, mais qui devait aussi être examiné comme aussi un des problèmes qui sont énumérés dans les cadres de refus des unités vers le brassage.
Bon, finalement, colonel, s'il vous plaît, est-ce que finalement les troupes réfractaires ont été convaincues, oui ou non, d'aller au brassage?
Jusque-là, je peux dire non, parce que une série de conditions qu'ils ont essayé d'imposer et que nous avons essayé d'examiner ensemble et que, considérant qu'ils ont été délégués, ils n'ont pas encore la décision, nous allons voir ce que j'ai appelé impact. Qu'est-ce que cela pourra avoir? Sinon, nous allons chercher à convaincre et à montrer vraiment le bien fondé de ce brassage et le mécanisme qui était imposable à tout le monde qui se veut militaire intégré des forces armées. Alors, nous attendons qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, nous l'attendons. Nous ne pouvons pas juger sur le refus comme sur l'adhésion à ce processus pendant qu'il n'y a pas encore d'ordre formel. Nous attendons l'ordre formel de l'état-major général qui va nous parvenir et c'est à partir de là que nous allons vérifier si réellement ils ont été convaincus. Sinon, ils sont partis avec le véritable message, avec avec le point de vue de tous les courants possibles, mais je peux vous dire que Jackson attend l'évacuation et que toutes ces unités militaires sont programmées pour le brassage. Nous attendons maintenant l'impact. Voilà ce que je peux réserver comme réponse à votre question.
Oui, sénateur Jacques Joly.
Oui, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les amis qui sont intervenus pour donner le cause, n'est-ce pas, de la situation ou des difficultés de la province et essentiellement de l'armée dans cette province. Tout ce qu'ils ont souligné me conforte dans ma position, pour dire. Ils posent des problèmes de menaces des génocides ou d'ethnocides. Le problème de déplacement pour le Congolais de frontières, n'est-ce pas, hérité de 1885. Ils parlent de l'absence de politique militaire au niveau national. Ils parlent d'absence de logistique. Ils parlent d'absence de salaire, des difficultés du processus. Donc, tous ces problèmes se résument à une absence, n'est-ce pas, de vision de politique de défense nationale. Et là, nous revenons à la question posée par les conseils de sécurité. Les représentants du conseil de sécurité ont demandé au gouvernement de mettre en place une stratégie nationale de sécurité. Cette stratégie nationale de sécurité avec volet politique, diplomatique, social, culturel. Et c'est cet document de stratégie nationale de sécurité qui va, n'est-ce pas, avoir comme fondement la réforme du secteur de sécurité. On en parle depuis plus de 3 ans qu'on a engagé le processus. On va trop insister sur l'intégration, sur le brassage. Le brassage n'est qu'un processus administratif.
Donc il ne suffit pas selon vous.
Non, il y a le processus d'intégration. Même là, il y a une politique de doter ces pays d'une armée opérationnelle. Et vous avez suivi l'école. Donc pour moi, les initiatives menées au niveau provincial, ce sont vraiment des initiatives de gens qui n'ont pas d'ordre. Et vous avez suivi, nous attendons un ordre formel. En attendant, on arrive, n'est-ce pas, à le fait que c'est changé pour construire un minimum de confiance pour que les gens aient avoir une baisse, ne fût-ce que de tension sécuritaire dans la région.
Oui, mais déjà que Joly, a terminé alors votre idée.
On pose par exemple le problème d'FDLR. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 7000 FDLR au grand maximum. Mais on a brassé plus de 15 brigades. On paye plus de 300 000 militaires. Donc 300 000 hommes ne peuvent pas éradiquer une bande de 7000 hommes. Je trouve ça arithmétiquement difficile à expliquer, même si le problème est complexe sur le terrain, il y a des interpénétrations politiques, mais il faut sortir de l'ambiguïté pour dire que voilà, comme a dit Michel, l'ennemi, celui qui n'est pas avec nous, c'est l'FDLR. Comment on traite cette question? Il ne faut pas se cacher derrière la MONUC, c'est la MONUC qui doit aller en guerre. Moi, je pose ce problème-là parce qu'il faut sortir de l'ambiguïté.
Oui, mais Jacques Joly, pour revenir à l'initiative de l'ONG que coordonne Michel Cassa, là nous parlons de la retraite. Bon, finalement, cette retraite, c'est vrai qu'elle n'a pas. On a suivi le colonel Delphin, on a suivi Michel Cassa. L'initiative n'a pas encore réussi à convaincre les réfractaires au brassage à rejoindre les camps. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut y arriver, cette initiative?
Je vous ai dit mon approche de départ. La retraite, c'est une notion religieuse, métaphysique. La retraite n'est pas une notion de commandement, n'est pas une notion politique. Ce sont des phases, des moments où on essaie de convaincre. Mais ici, il faut dégager une démarche processuelle claire. On va au brassage, comment on va? Il y a des étapes d'amener les gens à comprendre. S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième phase? Le mixage. Les gens, certains estiment que ça a eu lieu, qu'on a signé, d'autres disent qu'on n'a jamais signé. Ce que posent comme condition nos frères Tutsi, c'est tantôt ce sont des déclarations à caractère politique, le problème des réfugiés, ce n'est pas le problème de Laurent Kunda. C'est un problème national, ce sont des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, c'est un problème diplomatique. Tantôt il est CNDP, tantôt... Alors, il faut qu'on sorte de l'ambiguïté. Laurent Kunda, c'est un militaire. Si on doit discuter sur la place publique, sur sa situation, s'il y a eu un mandat, si on doit retirer ses mandats, mais qu'on discute sur la place publique et qu'on lui donne une place, si on doit lui donner une place, s'il est criminel, il faut le traiter en criminel.
Merci, Jacques.
Et continuer à vivre dans l'ambiguïté.
Merci, Jacques, le sénateur et le président de la Commission défense et sécurité au Sénat. Voilà, Michel Kassa, vous avez suivi le sénateur qui dit que vous êtes dans une démarche religieuse, apparemment. C'est pas avec beaucoup de chance de réussir.
Les démarches religieuses n'ont aucune chance d'aboutir. Je vous laisse la responsabilité. Non, je pense que. D'ailleurs, nous assumons parfaitement la comparaison. Je crois que nous travaillons sur la relation entre Congolais. Que nous soyons étrangers ou pas, je crois que ça ne change pas grand-chose. En particulier, les citoyens sur le terrain le savent quand ils côtoient tous les jours les humanitaires, ils savent que les questions de nationalité ne bougent pas beaucoup. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec le sénateur sur le fait qu'il s'agit d'une question de souveraineté. C'est-à-dire que notre ami, ce sénateur, a mis le problème au niveau... Où il doit être traité, c'est-à-dire celui d'une réforme du secteur de sécurité en profondeur. Nous avons en effet beaucoup entendu de complaintes de la part de tous les groupes de soldats sur le problème de logistique, de non-appui de leur famille, etc., du souci qu'ils se font pour leur famille, qu'elle soit d'ailleurs sur le territoire congolais ou en dehors pour les réfugiés.
Oui, mais Michel, est-ce que le gouvernement est impliqué dans votre initiative ?
Tout à fait, à travers la 8e région militaire, nous sommes également
au niveau de l'état-major général
mis sur le fait que probablement le gouvernement et l'état-major seront intéressés à connaître les résultats.
Mais quelle est la suite ? Parce qu'on vient de suivre, ce n'est pas encore le brassage pour les troupes réfractaires, mais quelle sera la suite de votre retraite ?
D'ores et déjà, je crois pouvoir dire, mais le colonel Delsin me confirmera probablement, c'est que le général Mayela a rendu compte également auprès du chef de l'État des résultats de cet atelier. Nous allons avoir un atelier de suivi au mois d'août. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier d'ailleurs. Nous aurons un premier atelier de suivi au mois d'août de 2 jours, de façon à travailler sur les engagements qui ont été pris. Encore une fois, vous savez que il s'agit ici d'une initiative informelle de la société civile nationale et internationale. Il s'agit donc d'un booster, pas d'une action centrale, officielle, formelle. Celle-ci est du ressort des autorités nationales.
Colonel Delphine Kaimbi, voilà, on a suivi, il y aura une retraite de suivi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous confirmer, vous confirmer à nos auditeurs et à la population qui vous suit au Nord Kivu que cette retraite de suivi pourra finalement convaincre ceux qui traînent les pas à rejoindre les camps de brassage?
Je crois que c'est une bonne initiative. Et aussi, nous avions discuté avec Michel. C'est vrai qu'au mois d'août, comme prévu, il y a cet atelier de suivi. Effectivement, il porte le bon nom, c'est-à-dire sur l'évaluation et le suivi de tous les engagements qui ont été pris et aussi les recommandations qui ont été formulées dans un camp comme dans un autre. Sinon, je suis très optimiste et je crois que ça pourra marcher compte tenu des résultats, compte tenu des impressions de chacun, de chaque groupe. Je suis très persuadé que ça pourra marcher.
Mais ce n'est pas l'avis, vous avez suivi du sénateur Jacques Ndioli.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, compte tenu des préalables comme vous les aviez suivis, le faux problème de l'air qui est un problème de sécurité nationale que doit vraiment constituer la véritable revendication d'un individu ou d'un groupe d'individus. En fait, le groupe de FDLR, c'est un problème qui menace la sécurité nationale et qui doit être traité par l'armée nationale et non un groupe d'insurgés ou un groupe d'hommes qui veulent se faire servir de cette façon.
Mais le fait est que l'armée, vous n'y parvenez pas, mon colonel.
C'est pratiquement faux. Je crois que d'ici là, nous sommes en train de travailler sur un plan d'action global sur le démantèlement des SLS, et je crois que nous allons expérimenter les unités brassées qui seront désormais engagées et qui vont sortir des résultats plus positifs. Si réellement on doit continuer à se servir de ce prétexte, SDLR, je crois qu'il n'y aura pas brassage dans les 2 ans, parce que c'est un problème très complexe, qui doit réexaminer l'État et fonder des stratégies très objectives qui doivent nécessairement aboutir au démantèlement définitif de tous ces SDLR. Le retour des réfugiés est un problème national qui nécessite un mécanisme avec les partenariats, je crois que ce sont des mécanismes qui ont été déjà entrepris. Sinon, nous attendons l'atelier de suivi qui pourra examiner, qui pourra aussi associer tous les participants et voir si réellement les engagements pris par chacun ont été respectés. Et voilà donc, c'est ça en fait.
Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on a suivi les différents représentants de ces groupes armés qui disent attendre des ordres, même si ils ont pris des engagements, mais ils attendent des ordres.
Non, les engagements que chacun a pris, c'était à titre individuel, visant justement les rôles qu'il pourra jouer pour convaincre à ses leaders. Je continue toujours à insister par le fait que au niveau militaire, à travers le constat, à travers le climat qui a régné pendant l'atelier, qui ne se pose aucun problème au niveau militaire. Il suffit tout simplement de créer ce divorce entre l'armée et les différentes manipulations des ethnies et la politique qui doit toujours exercer une influence négative dans la fondation d'une armée unique et d'un commandement unique. Donc c'est là qu'il y a des problèmes. Les recommandations résistent que ont été formulées à titre individuel et le rôle que chacun pourra jouer dans la recherche des solutions et non des engagements collectifs ou des engagements globaux.
Oui, merci colonel. Nous allons prendre rapidement quelques opinions de nos auditeurs. Didier de Bukavu au sud Kivu, qui pense que la paix restera impossible au nord Kivu tant que les autorités de l'armée congolaise se sous-estimeront devant des officiers refractaires au brassage. Kibak de Kisangani en province orientale, pour lui, l'initiateur de cette rencontre entre les officiers de tendances différentes a bien réfléchi, mais la question que nous nous posons est de savoir pourquoi l'a-t-il fait si tard. Vous pouvez réagir déjà à cette question, Michel Kassa. Pourquoi vous avez réagi si tard selon cet auditeur?
Nous répondons à une invitation qui nous a été faite. Vous pouvez imaginer que c'est assez difficile de mettre ensemble des personnes comme cela. Et d'ailleurs, il faudrait mentionner une entité qui, elle, est plus formelle que la nôtre, qui est la cellule provinciale d'appui à la pacification au Nord Kivu, qui a joué un rôle décisif dans la recherche des participants et le dialogue avec certains de ces participants pour qu'ils puissent être présents lundi dernier. Mais sinon, pour le caractère tardif de l'initiative, je suis un peu d'accord avec cette personne. Cette initiative, elle a peut-être même 10 ans de retard ou 13 ans depuis que les ex-FARC sont rentrés sur le territoire zaïrois et ensuite congolais. De ce point de vue-là, nous sommes tous très en retard.
Oui, merci Michel. Est-ce que vous n'avez que quelques secondes? Oui, sénateur, il y a déjà contre lui, il y a une autre question d'un auditeur. Guylain Kabouya de Goma estime que pour avoir une paix durable au Nord Kivu, il faut que tous les militaires soient favorables au brassage et soient délocalisés de leur province d'origine. La réaction en 10 secondes.
C'est tellement vrai qu'il ne faut rien dire. On ne peut rien dire. Il faut une approche globale d'une armée réellement nationale où quelqu'un qui est intégré ou qui est brassé doit être géré par les commandements et non par ses propres envies s'il veut rester sur une montagne ou s'il veut aller à côté d'une rivière. Sinon, ce n'est pas une armée, c'est une bande de gens armés. Mais pour terminer, le problème de l'armée, il ne faut pas chercher ça dans l'armée. C'est dans la nation, c'est dans la politique qu'il faut chercher le problème.
Merci, sénateur Jacques. Oui, colonel Delphin, vous n'avez que 5 secondes pour répondre. Il y a Didier de Bukavu, sud Kivu, lui, pense que la paix restera impossible tant que les autorités de l'armée se sous-estimeront devant des officiers réfractaires au brassage. Vous n'avez que 5 secondes pour répondre.
Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je suis très optimiste, comme je l'ai toujours dit. Le fait d'avoir organisé cet atelier, et je crois que c'est l'initiative, et c'est un ordre qui a été...
Merci beaucoup, merci colonel, merci, vous avez épuisé les 5 secondes. Merci de votre attention, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Dialogue entre Congolais qui a été réalisé par Laline Foula et Héritier Sidiakala. Bonne suite de programme sur Radio 4.